de 825 000 personnes dans la rue. Les syndicats évoquent 3 millions de manifestants.
Radio Canu, la plus rebelle des radios.
All your call is a diamond fella. All your little ways are a comedy of errors. You bellow with your fellows, get clean like the cello. I'm doing my thing, you're jealous like a fellow. You, what are you gonna do? Little boys get tamed like the shrew. Your midsummer dreaming, your tunes ain't appealing. I'm Capulet, you're Monarchy, I ain't feeling. I am the Julius Caesar, hear me. The merchant of Venice, getting so your CV. As for me, all's well that ends well. Your boys like Macbeth, you're going to hell. Measure for measure, I am the best here. Your merry wives, the winds are not King Lear. I don't know about Timon, I know who's in Athens. I come back like Hamlet, you pay for your actions.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Vous êtes bien sur Radio Canu.
Il est 19h passé de quelques trucs.
Ouais, 19h04. On est le 26 juin. Et on va commencer ce Canu Info en vous parlant du Brésil. Il y aura bien un référendum, mais pas d'assemblée constituante.
Puis nous vous ferons un petit retour sur le mouvement en Turquie.
Ensuite, sida et prostitution, les ONG américaines retrouvent leur liberté de parole.
142 transsexuels demandent réparation à l'État suédois.
Une plainte contre Paul Baril pour complicité de génocide au Rwanda.
Et puis, ça sera l'heure de la chronique numérique.
Suivi par « Il faut que ça se sache ». You're a father, I told no joke, I hope you're not laughing. Poet or pauper, wish to your classroom, speak eloquent. Though I am resident to the gritty in a city that's surely irrelevant. Call it urban, call it street, or old by any other name, small just as sweet. Spit so hard, but I'm smart as the bar, come through with a union jack full of yarn.
Au Brésil, donc, le pouvoir cherche à sauver ce qu'il y a à sauver. Et comme c'est un pouvoir de gauche, alors bon, pas non plus d'extrême gauche, il ne faut pas exagérer, mais c'est quand même autre chose que les socialos français. Dilma Rousseff, la présidente, a annoncé lundi toute une série de mesures qui, bon, pour une part, vont dans le bon sens. Alors du côté politique, organisation politique, on pourrait dire, là, comment dire, c'est pas le point fort, puisque lundi, elle avait parlé d'un référendum et d'une assemblée constituante. Bon, alors de ce côté, il faut vraiment pas s'emballer. L'assemblée constituante, on a appris aujourd'hui qu'elle aurait juste pas lieu. Pas le temps de s'organiser, ça c'est ce qu'a dit un ministre aujourd'hui. Et puis en fait, on a appris aussi que les députés unanimement ont dit qu'ils en voulaient pas. Parce que bon, voilà, ils sont députés, ils veulent pas trop risquer leur carrière. Et puis les juristes constitutionnalistes, eux, ils en veulent pas non plus. Alors les juristes constitutionnalistes, bien sûr, on imagine qu'ils se sont tapés d'apprendre la constitution brésilienne, que ça a dû être long et compliqué, et qu'ils ont pas très envie de retourner à l'école.
Ils ont peut-être eu des longues études.
Mais bah, je pense qu'ils ont dû faire juriste constitutionnaliste. En plus, le Brésil, je pense, ça doit être une constitution bien, bien travaillée, là. Et aujourd'hui, le président de l'Ordre des avocats a dit qu'il valait mieux, ouvrez les guillemets, préparer une réforme politique et ensuite la soumettre au peuple par référendum. Donc on la prépare entre gens bien et ensuite on demande aux gens de répondre par oui ou par non. C'est sûr, ça simplifie les choses. Alors le référendum, lui, il aura bien lieu. Mais donc, en passant un bon moment sur Internet, j'ai jamais réussi à savoir sur quoi il allait porter. Donc l'essentiel, c'est qu'il y ait un référendum. Et voilà, pour l'instant, il y a la promesse d'un référendum, et donc on va demander l'avis des gens. Alors sur n'importe quoi, mais on va demander l'avis des gens, en espérant bien sûr que ça les calme, que ça leur donne l'impression d'avoir leur mot à dire. Après, bon, de toute façon, on décide ce qu'on veut, hein, et normalement, ça marche, ça sert pas mal à calmer les gens. De toute façon, globalement, la démocratie représentative repose bien sur cette idée.
Surtout avec une petite touche participative comme ça. Là,
mais c'est parfait. Ça. En fait, c'est la touche participative qui fait que les gens, ils sont contents un peu quoi qu'on fasse. Enfin, c'est toute l'histoire de tous les débats publics qui sont organisés sur les RFID, sur n'importe quoi. Là. Bref, on va pas revenir dessus en détail. Alors, par contre, au Brésil, dans les trucs un petit peu plus concrets, le pouvoir lâche quand même du lest, vraiment. Donc hier, c'était la loi dite du PEC-37 qui a été rejetée par une écrasante, enfin le projet de loi, par une écrasante majorité par la première chambre du Congrès. Donc c'est un projet de loi qui était dénoncé par les manifestants depuis le début du mouvement. Une loi qui aurait interdit au parquet de lancer une enquête, donc de prendre l'initiative de lancer une enquête et de mener lui-même l'enquête. En gros, c'est l'histoire d'indépendance des juges. Et comme un des gros enjeux du mouvement, c'est la corruption, l'indépendance des juges vis-à-vis du pouvoir politique, ça reste un truc qui est assez important. Et puis lundi, du coup, Dilma Rousseff, la présidente, là, a fait tout un discours. Elle avait aussi parlé de cette histoire de référendum et de constituante, là. Mais du coup, elle a quand même dit d'autres choses qui sont autrement plus intéressantes, là, et qui sont entre autres l'injection de l'équivalent de 18,5 milliards d'euros pour améliorer les transports publics, ce qui est une grosse revendication du mouvement. La mise en chantier de pactes contre la corruption, de trucs en faveur de l'éducation, de la santé et de la stabilité économique via un contrôle budgétaire de l'inflation. Un contrôle du budget et de l'inflation. Bref, en gros, des moyens vont peut-être réels, semble-t-il réels, vont être donnés à la lutte contre la corruption d'un côté et à la lutte contre la vie chère d'un autre côté. Reste à savoir ce que les manifestations vont devenir après qu'elle ait lâché tout ça. Et bon, ça c'est pas l'air gagné que ça se calme tout de suite parce que, alors hier, pour la première fois, il y a une manif qui est partie d'une favela pour aller dans un quartier rupin. Jusque-là, les gens qui manifestaient, c'était plutôt des jeunes de classe moyenne. Et dans la lignée des différents mouvements indignés là, qu'on a pu connaître depuis 2 ans autour de la planète. Et là, dans la nuit de lundi à mardi, en fait, des gens qui manifestent, donc plutôt des jeunes de classe moyenne, mais là, du coup, des voitures bloquées. Et là, les habitants de la favela d'à côté qui arrivent et qui braquent les bagnoles. Ouais, bien sûr. Les flics arrivent et ils chassent les gens de la favela qui retournent dans la favela, les flics les poursuivent. Et donc là, en fait, ça a été une nuit d'enfer dans la favela. Au petit matin, et on comptait 9 morts, dont un flic. Enfin, 9 selon les chiffres officiels et 13 selon les réseaux sociaux, dont un flic. Donc vraiment, ça a été la méga baston dans la favela. Et donc le lendemain soir, manif de. Alors en fait, d'une autre favela, visiblement, mais qui sont allés dans les quartiers chics. En disant arrêtez la répression, filez de la thune à la santé, blablabla. Bon voilà, d'autre part, les syndicats ont annoncé une journée de grève le 11 juillet. Enfin, un appel circule sur Facebook pour bloquer le pays le 1er juillet. Alors par contre, le mondial de foot, qui avait aussi été un gros truc contre lequel les manifestants s'étaient organisés, vu qu'il va coûter l'équivalent de 11 milliards d'euros au pays, là visiblement rien n'a changé, il aura bien lieu, il sera bien organisé par le Brésil. Et enfin... Mes bien chers frères et mes bien chères sœurs, réjouissons-nous car les JMJ de Rio, qui sont prévus du 23 au 28 juillet prochain, ne sont pas menacés, comme nous l'apprend le Figaro. Et c'est là qu'on est toujours plus dans un monde de fous quand même, parce qu'au Brésil, non seulement les manifestants sont catholiques, ce dont on aurait pu se douter, mais quand même un peu plus étonnant, la hiérarchie de l'Église soutient les manifestations, enfin balance des communiqués de presse et tout ça. Et pour ces JMJ, c'est le pape lui-même qui est en train de nous peaufiner un petit discours de soutien au mouvement. Et attention, c'est pas une blague, hein, c'est pas moi qui l'invente, c'est le responsable au Vatican de l'organisation des JMJ qui a confié ça au Figaro. Alors, une fois encore, vive la sociale, vive le pape.
I wish you were dead. I wish you all were dead.
Et on va continuer dans la contestation populaire. On va faire un petit retour sur tout le mouvement qui a eu lieu à Istanbul et dans le reste de la Turquie. On va faire ce retour grâce à des entretiens téléphoniques de deux personnes différentes. Il y a un daron et il y a un lycéen qui ont été faits sur Radio Escapade par les collègues et camarades de la mission Légitime Offense, que vous pouvez retrouver du coup en entier sur Internet. Juste un tout petit truc avant par rapport aux chiffres qui vont être donnés dans le reportage. Les choses ont l'air d'évoluer très vite puisque ça a été diffusé, enregistré vendredi dernier et les chiffres sont plus tout à fait pareils. Alors j'en vais donner juste quelques-uns vite fait. Entre le 27 mai et le 24 juin, il y aurait au moins du coup 5 personnes qui ont été tuées en Turquie et 7681 personnes blessées, dont 4478 à Istanbul et 1539 à Ankara. Voilà, parmi les morts, et bah, y a un flic qui serait tombé accidentellement dans un fossé quand il poursuivait un groupe de manifestants à Adana. C'est dommage pour lui. Et voilà, et deux petits trucs qui manquent aussi, c'est que du coup, il y a des assos qui commencent à dénoncer l'usage continuel des canons à eau par la police, et notamment, la police aurait également ajouté un produit chimique à l'eau des canons, provoquant des brûlures sur le corps des manifestants. Il y a un rapport qui est sorti qui recense en outre 2841 arrestations, dont 918 à Istanbul, 973 à Ankara et 485 à Izmir. Il y aurait toujours 70 personnes à peu près qui sont en garde à vue et 70 aussi qui ont été envoyées en prison. Et maintenant, place au reportage.
Au début, ce mouvement a commencé comme un mouvement environnementaliste. C'était le gouvernement, il a voulu couper les arbres, c'est pour ça qu'il y avait une plateforme qui était contre ça. Il dit on a besoin des parcs, parce que le gouvernement, il a voulu couper les arbres pour faire un centre commercial. Et les gens, ils ont dit, on a besoin de parcs, on en a marre de votre centre commercial et tout. Ils ont commencé à camper. Moi aussi, j'étais là-bas depuis le début. On a fait un camp, on a fait des explications de stress, on a fait plein de choses. Et puis après, un jour, les flics, ils ont arrivé à 5h du matin. Ils ont chargé tous les manifestants, ils ont brûlé les tentes. Ça, là, on a pété un câble, on a revenu un jour après, on a fait la même chose, on a mis notre tente, on a commencé à dire quelque chose, on a commencé à faire quelque chose culturel, et puis après, un jour après, les flics, ils sont arrivés à 5h du matin, ils ont fait la même chose, ils ont jeté des bombes de gaz, il y avait pas mal de blessants, c'était vraiment dur, quoi. On était vraiment blessés. Et puis après, ils ont brûlé encore une fois les tentes. C'était la folie. Quand les gens ont entendu que les flics brûlent les tentes, c'est des délans. Et puis après, le mouvement est grandi à cause de l'intervention de la police. Un jour après, c'était encore plus... Il y avait encore plus du monde. Un jour après, encore plus du monde. Et les flics, en plus les gouvernements, il faut surtout dire les gouvernements, ils ont commencé à dire, oui, c'est des pillards, ils font n'importe quoi. Et puis après, les gens qui étaient... Parce que ça commençait comme un mouvement environnementaliste, mais c'est devenu un mouvement contre le gouvernement. Le gouvernement, il est là depuis 10 ans. Il fait ce qu'il veut, les flics aussi, il fait ce qu'il veut, c'est devenu un dictatorial, quoi. C'est pour ça que les gens, ils ont dit, ça suffit, vous pouvez pas faire ce que vous voulez. Et puis après, on a commencé à être très nombreux, et un jour, il y avait plus de 1 million de personnes. Ouf. Et les flics, ils ont chargé encore une fois et les gens commençaient à résister. Là maintenant, cette fois-ci, on n'est pas fui, on a commencé à résister. On était très nombreux et eux, ils utilisaient des bombes de gaz, ils utilisaient...
Les canons à eau de... Ouais, les canons à eau.
Oui, oui, c'est ça. Et il y avait pas mal de blessants en plus. Il y avait des morts aussi. Ça nous pétait un cap encore une fois. On est revenu très très fort. On a gagné la place parce que les flics, ils ont occupé la place de la parc de Yézi. On est revenu très très fort. On a repris la parc. On a poussé les flics. On a repris la place. Après, on a fait pas mal de barricades. Il y avait, je crois, à peu près de 30 barricades. Mm-hmm. Et puis, il y avait un centre culture sur la place Taksim qui s'appelle Atatürk Kültür Merkezi. Et on a fait pas mal de... on a mis pas mal de pancartes sur ça. C'était... Si vous voulez, je peux vous envoyer les photos.
Oui, on a vu les banderoles sur, super, c'est, sur l'immeuble.
On a créé une commune sur la place Taksim. Et puis, on a vécu comme ça pendant des jours.
Tu veux dire que la place Taksim était complètement indépendante, autonome et
oui,
coupée de la ville, quoi. Et les gens habitaient là, oui, mangeaient là-bas.
Il y avait 5 chemins qui viennent vers Taksim. Je vous ai déjà dit, il y avait à peu près 30 barricades. Mais les barricades, je ne peux pas vous expliquer comment je peux dire. La taille, c'était 5 mètres. L'âge, c'était 4 mètres. Il n'y a rien qui peut passer. Cet moment nous a appris qu'on peut vivre ensemble. Il y avait, parce qu'on a vu qu'il y a pas mal de gens qui pensent différemment, mais on peut rester ensemble, on peut faire quelque chose ensemble. Et c'est la résistance quoi qui nous unit. Voilà. Il y a des kémalistes, il y a des féministes, il y a des communistes, socialistes. Il y a des gays, transsexuels, lesbiens, il y a des Turcs, il y a des apoïstes. Voilà, il y avait pas mal de groupes qui étaient normalement dans le quotidien qui critiquent vraiment très très fort l'un et l'autre. Mais là maintenant, ils étaient tous ensemble. Quand on a occupé la place chez la Parc de Vézi, et vous devez voir, les enfants étaient là, ils sont en train de faire des dessins, ils sont en train de chanter. Il y avait un petit atelier pour les enfants et il y avait des vieux aussi. C'était une occupation vraiment très très hétérogène. Dans la journée, on bosse, à le soir, on résiste. C'est un slogan qui est devenu vraiment pour tous les gens qui travaillent. C'est un slogan, c'est devenu un phénomène. Ils ont fait un petit cinéma. Ils ont montré leurs films. Il y avait des théâtres, des peintres, des peintures, des enfants et tout. Il y avait pas mal de choses. Il y avait des discussions aussi. Voilà, c'était une commune. On a vu pendant 21 jours là-bas. On a fait tout ce qu'on fait dans le quotidien. Oui, le préfet, il dit, vous pouvez rester tranquille, ça ne sert à rien, vous restez sur la place, les flics sont avec les tâches. Et puis, 2 heures après, ils sont arrivés. Ils ont, en plus, c'était dans la semaine, à 7h du matin, on n'était pas très nombreux. Et ils n'ont pas chargé les barricades. Mais ils ont quand même rentré dans la place. Et déjà, les manifestants ont commencé à résister. Les flics, ils ont jeté des bombes de gaz. Il y a pas mal de blessants. Je veux vous donner les statistiques du syndicat de médecins.
Ouais.
Et le bilan de ce mouvement, 4 personnes qui sont mortes. Oui, 4 personnes qui sont mortes, 7822 personnes qui sont blessées, 59 blessés qui sont dans une position grave.
D'accord.
Et 11 personnes qui ont perdu ses yeux. Et 100 personnes qui ont eu un coma. Et 6 personnes qui sont en train de mourir. Déjà, ils utilisent la bombe de gaz comme un fou, en plus. Et normalement, ils doivent le jeter. Ils le jettent avec un arbre, c'est ça le problème. Normalement, ils doivent le jeter avec 45 degrés. 45
degrés.
Ils jettent directement sur les gens. C'est ça le problème. Quand vous avez une balle sur votre tête, ça veut dire que vous êtes dans le coma. Ils ont utilisé 130 000 bombes de gaz. Cartouches. 130 000 cartouches. Et en plus, je vais vous dire, je vais vous donner les statistiques, j'ai dit 7822 personnes qui sont blessées, mais c'est les gens qui vont au l'hôpital.
Oui,
on,
les autres.
On ne sait pas combien de personnes il y a blessées, mais ils ne vont pas au l'hôpital. Il y avait un groupe, il s'appelle CDP, ils ont mis un cocktail Molotov sur un poumon, et puis après ils ont eu une opération très très forte.
De répression, ouais.
Il y avait les autres groupes aussi qui ont jeté feu d'artifice sur les flics, ils ont eu une forte opération aussi. En fait, les polices, Il nous a chargé encore une fois très très fort. En plus, ils empêchaient les médecins
de travailler.
Ils empêchaient les médecins pour qu'ils ne soignent pas les gens. Il y a un autre exemple, c'est les avocats.
Ils ont arrêté les avocats, oui.
Il y avait un groupe d'avocats qui ont voulu soutenir l'occupation de parc. Ils ont fait une petite manif dans le palais de justice, mais ils ont rien fait. Ils ont juste dit quelques slogans. Ils ont resté là et les flics, ils le chargé comme des fous. En plus, les flics, ils n'ont pas le droit de toucher les avocats. Les avocats, ils étaient en garde à vue. La presse nationale, c'était vraiment. Il parlait de rien.
Des pingouins.
Quand il y a un truc, c'était vraiment drôle. Quand les flics ils nous cherchent, ils ont mis un documentaire de pingouins. Vous pouvez imaginer, c'est des chaînes nationales. C'était CNN Turc. Et CNN International, ils coupaient leur connexion et tout. Et les chaînes nationales, ils ont montré rien. Les parents, surtout les mères, ils ont venu dans le parc. Ils ont fait une manif pour dire on est là avec nos enfants, on résiste tous ensemble.
On est solidaires, ouais.
Oui, vous n'avez pas le droit de nous dire ramenez vos enfants et tout, on résiste tous ensemble.
D'accord.
Oui, c'était.
Là, sur le.
Vraiment devenu un truc de peuple. Les profs annulaient les examens, les ouvriers n'est pas allés au votre boulot. Et quatre syndicats, ils ont fait une grève. C'était les syndicats d'ouvriers, syndicats fonctionnaires, syndicats de médecins et syndicats de dentistes. Oui, par exemple, nous, on était à Béchitache. À la fin du mouvement, parce qu'on n'arrivait plus à rentrer dans la parc, on était à Béchitache. On a entendu, il pleuvait, et puis après, les gens sont partis, on n'était pas très nombreux, et on a vu qu'il y a du monde qui marche vers nous. On a pensé que c'est le flic, on a commencé à nous préparer, et puis après on a vu que c'est des islamistes. Ils arrivent avec leurs couteaux et leurs matraques. Ils ont attaqué contre nous. On a fui, mais il y avait des gens qui n'arrivaient pas à fuir. Il y avait une nana qui était en train de mourir à cause de ça. Dans les grandes villes comme Istanbul, Ankara, ils font des opérations. Ils ont fait des opérations surtout pour contre l'extrême gauche. Ils ont arrêté pas mal de gens. Il va à la maison pour arrêter les gens. Quand les flics ils attaquent, ils coupent toutes les connexions. Ils coupent les connexions de portable, ils coupent les connexions d'internet. Et puis après, on s'organise sur les réseaux sociaux.
D'accord.
C'est-à-dire que oui, c'est vrai qu'au début, toutes ces équipes qui se tapaient dessus, au final, pour ce mouvement, elles se sont unies. Ils ont même sorti des écharpes des quatre équipes unies ensemble. C'est-à-dire que c'est vrai qu'ils ont assez bougé ensemble. Mais bon, là-dedans, il y a quand même surtout un groupe de supporters qui a activement participé au mouvement, c'est le groupe de Beşiktaş. Donc on appelle Chercheur avec le A de l'anarchie. Donc c'est un groupe assez anarchiste, assez politique aussi, en même temps d'être des supporters de foot. C'est surtout eux qui ont activement participé malgré l'union des clubs. Et c'était surtout eux qui étaient en train de se battre, c'était surtout eux qui étaient au front. Donc c'est-à-dire qu'au niveau de l'opinion publique des résistants, ils ont vraiment été là. C'était eux vraiment qui étaient mis en valeur. Ils ont même, quand ça s'est un peu calmé à Istanbul et que ça chauffait toujours à Ankara, ce groupe de supporters a envoyé 5 bus remplis de mecs pour aller à Ankara parce qu'ils savaient qu'ils avaient plus besoin d'aide là-bas. Ça a commencé d'un mouvement environnementaliste et écologique, c'est sûr, c'était pour défendre le parc à la base, mais ça a très vite pris une ampleur très anti-gouvernementale. Je veux dire, il n'y a qu'à entendre les slogans qui sont chantés, les slogans qui ont été chantés pendant tous ces jours d'occupation. Il n'y avait aucun qui parlait du parc, c'était tous des slogans contre le gouvernement. Je veux dire, c'est devenu qu'un symbole, la place Taksim, le parc de Taksim était devenu qu'un symbole. C'était clairement un mouvement anti-gouvernemental contre Tayyip Erdogan et, comme vous dites, ces lois qui ont été... ces lois qu'il essaye de faire passer, que ce soit contre l'alcool, sur l'avertement. C'est vraiment des lois fascisantes qui... Enfin, je veux dire, c'est ça qui a fait bouger le peuple un peu, quoi. Au début, on était rempli d'espoir. On commençait à parler de printemps turc dès le début. C'est vrai que bon, après, on s'est petit à petit rendu compte qu'on avait affaire à un gouvernement fasciste et que, voilà, un gouvernement qui se disait démocratique. Au début, on s'est dit que normalement, dans un gouvernement démocratique, après tout ça, il aurait déjà démissionné, mais non, il est toujours là, chargé. Et c'est ça, je veux dire, maintenant, il y a des comités dans les parcs qui ont été organisés, etc. On essaye de faire bouger les choses, mais enfin, je veux dire, évidemment que notre but est d'obtenir sa démission, mais pour l'instant, je doute sur le fait qu'on soit assez fort, en tout cas pour l'instant, pour pouvoir faire stopper. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est beaucoup dans les rues, mais que cet homme a encore 50% de la population derrière lui. Mmh. Et malgré qu'il ait baissé dans les sondages, c'est vrai, mais il a toujours, c'est lui en tout cas qui a toujours une majorité du peuple derrière lui. Mais bon, on perd jamais espoir, on continuera à résister tant qu'il le fera. Il n'y a pas de.
Oui, ça
y
est.
Il y a le principe de guerre civile qui est en train de s'annoncer là. Enfin, je veux dire, personne veut que ça se passe comme ça, mais s'il le faut, ça se passera comme ça.
Sida et prostitution, les ONG américaines retrouvent leur liberté de parole. Alors en fait, les assos américaines de lutte contre le sida, elles sont, depuis il y a quelques jours, elles sont plus contraintes de prendre position contre la prostitution pour recevoir des fonds publics, après une décision de la Cour suprême des États-Unis, qui a estimé que ça violait la liberté d'expression. Donc pour les militants de la lutte anti-sida, cet arrêt va mettre un terme à la diabolisation des travailleurs du sexe. Et à comment est perçu leur soi-disant rôle dans la propagation de l'épidémie de sida. Et ça permettra aussi aux organisations de terrain de travailler plus librement pour combattre cette épidémie. Donc pour vous expliquer un petit peu, cette loi, elle remonte à il y a 10 ans, avec le lancement donc en 2003 par l'administration de George Bush du PEPFAR, c'est le plan d'aide d'urgence américain pour la lutte contre le sida. Et ce plan, il prévoyait une enveloppe exceptionnelle comme 15 milliards de dollars sur 5 ans, et qui permettrait d'avoir des traitements antirétroviraux et puis de mettre en place des mesures de prévention dans 15 pays. Et pour la plupart, c'était des pays d'Afrique subsaharienne où l'épidémie, elle est quand même assez active. Et donc ce plan-là, il avait une restriction au tableau, c'était que les programmes financés, ils devaient, par ce plan-là, ils devaient ouvertement se positionner contre la prostitution afin de recevoir l'argent. Et donc en fait, jeudi, la Cour suprême a mis un terme à cet engagement forcé. Et en fait, c'est vrai que ce truc-là, c'était dénoncé, le fait qu'il y ait cette obligation, c'était dénoncé par les groupes de défense de la santé publique, qui avait dit que c'était un petit peu n'importe quoi. Et donc le juge qui a pris cette mesure-là, il a expliqué que pour lui, la loi, elle allait à l'encontre du premier amendement de la Constitution sur la liberté d'expression, parce qu'en gros, elle forçait les assos à prêter allégeance à la politique du gouvernement d'éradication de la prostitution. Donc, en effet, cette loi, elle avait pas mal d'effets négatifs. Donc, y a plein d'assos qui dénonçaient ça et qui disaient que... Il y avait eu de nombreux exemples. Par exemple, au Mali, il y avait des programmes qui étaient se retrouvaient en pénurie de préservatifs à offrir aux travailleurs du sexe. Il se passait aussi qu'au Cambodge, il y avait de la rétention d'informations sur la santé des jeunes garçons prostitués qui étaient faites. Et puis au Bangladesh, il y avait eu la fermeture de centres de santé communautaires. Et du coup, les assos, ce qu'elles dénoncent, c'est que en fait, ça devrait pas, ce qui devrait être le moteur des politiques publiques, ça devrait pas être l'idéologie, mais plutôt les faits et les résultats des programmes mis en place. Et du coup, voilà, il y avait plein d'assos, entre autres africaines, qui ont fermé parce qu'elles n'avaient pas prêté allégeance et que donc, du coup, elles n'ont pas eu l'argent. Il y a d'autres assos qui ont bossé en secret et qui ont fait en secret ce qu'elles avaient à faire et puis qui n'ont pas écrit dans leur rapport d'activité, qui n'ont pas publié toutes leurs informations. Et il y a d'autres assos qui ont carrément refusé l'argent du PEPFAR et voilà, parce que ça leur posait un vrai souci. Donc en fait, là, ce que les ONG espèrent, c'est que les organisations sur le terrain, elles seront plus en sécurité et plus libres de fournir les services appropriés aux travailleuses du sexe. Donc... Alors le PEPFAR, on ne sait pas trop ce qu'ils en disent de ça, mais bon, c'est plutôt une nouvelle qui est à moitié bonne, et après elle est d'un autre côté pas super, c'est une victoire partielle en fait. Et en fait, il y a le réseau des Sex Work Project, il y a un réseau international de travailleurs du sexe qui disent que en fait c'est... Cette mesure, elle permet pas de faire une distinction entre le travail du sexe et le trafic, la traite des êtres humains, et que du coup ça c'est une limite, et que c'est pas vraiment une défense des droits des travailleurs du sexe, mais que bon, du coup ça permettra quand même de faire qu'il y ait un peu moins de stigmates autour du travail du sexe, et que les assos elles pourront à peu près bosser correctement. Donc voilà, on ferait bien d'en prendre un petit peu connaissance en France et d'avoir un peu de gamberge là-dessus, puisque par exemple en France c'est pas du tout l'ambiance d'aller dans ce sens-là, et l'ambiance c'est plutôt justement que toutes les assos, il faut le gouvernement précise bien que la France est un pays abolitionniste et que ça serait bien quand même de faire des actions abolitionnistes quand on est financé.
Un petit passage en Suède maintenant, où 142 personnes transsexuelles ont déposé lundi une demande de réparation financière et réclamé des excuses officielles à l'État pour avoir subi une stérilisation forcée lors des opérations de changement de sexe effectuées entre 1972 et 2012. Ça est annoncé par leur représentant, qui est la Fédération Nationale pour les Droits des Homosexuels, Bisexuels et Transsexuels. La justice suédoise a aboli le 10 janvier une loi de 1972 qui obligeait tout transsexuel à subir une opération de stérilisation irréversible pour pouvoir changer son état civil. Pendant tout le printemps, là je cite, nous avons travaillé pour que le gouvernement prenne une initiative en la matière. Nous pensons que ces personnes doivent recevoir des excuses et une indemnisation, explique du coup une des responsables de la fédération. La demande déposée devant le chancelier de la justice ne concerne que 142 personnes qui se sont manifestées, mais il y aurait plus de 800 personnes qui auraient été stérilisées de force sur cette période. Une loi permettrait d'étendre l'indemnisation à toutes les victimes qu'ils souhaiteraient. En 1999, le Parlement a adopté une loi prévoyant d'indemniser à hauteur de 175 000 couronnes, c'est-à-dire 20 438 euros, les victimes de stérilisation de force dans le cadre d'un programme basé sur des théories eugénistes en place en Suède entre 1935 et 1996. Le chef du gouvernement, le conservateur Fredrik Reinfeldt, qui a l'air très sympathique, a indiqué le 11 juin, à un journal, que des excuses n'étaient pas du tout à l'ordre du jour.
Trois ONG françaises ont annoncé hier qu'elles avaient déposé plainte à Paris pour complicité de génocide. contre l'ex-officier de gendarmerie Paul Baril, ex-officier de gendarmerie et surtout mercenaire par la suite, qu'elles accusent d'avoir signé un contrat d'assistance militaire avec le gouvernement rwandais en plein génocide en 1994. Ces trois ONG sont l'Association Survie, la Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme et la Ligue Française des Droits de l'Homme. Donc Paul Baril, cet ancien capitaine de gendarmerie reconverti dans la sécurité privée a conseillé différents chefs d'État, notamment en Afrique et plus particulièrement au Rwanda, dans les 4 ans qui ont précédé le génocide. Et le 28 mai 1994, donc ça faisait un mois et demi que le génocide avait commencé, il a conclu, hein, ouvrez les guillemets, contrat d'assistance, de fourniture d'armes et de munitions et de formation et d'encadrement avec Jean Kambanda, premier ministre du gouvernement intérimaire rwandais de l'époque, donc gouvernement qui était en train de mettre en pratique le génocide. Les trois ONG dénoncent la conclusion et l'exécution partielle par Paul Baril de ce contrat de fourniture d'armes et de munitions et de formation et d'encadrement, alors même que le Rwanda était en plein génocide et que la communauté internationale dénonçait ouvertement les multiples violations des droits de l'homme commises dans le pays. Les ONG rappellent que le Conseil de sécurité des Nations Unies, par une résolution de mai 1994, avait notamment adopté un embargo sur les armes interdisant la vente et la livraison d'armements et de matériel connexe de tout type, y compris les armes et les munitions. Donc voilà, il s'était clairement mis hors la loi internationale. Paul Baril a déjà été entendu à plusieurs reprises par la justice française comme témoin dans l'enquête sur, en particulier dans l'enquête sur l'attentat d'avril 1994 contre l'avion du président rwandais Habyarimana. Donc c'est cet attentat qui avait déclenché le génocide. Et enfin, par la suite, Paul Baril avait fait des sortes de simagrées un peu folles autour de cet attentat. Il avait prétendu être allé sur les lieux, il avait ramené la boîte noire de l'avion, et là il avait sorti une boîte qui était noire, qui ressemblait pas du tout à ce que peut être en réalité une boîte noire. Et de toute façon, on avait su par la suite que cet avion ne possédait pas de boîte noire. Enfin, et tout ça. Donc lui, c'était pour dire que c'était le FPR, donc les Tutsis exilés qui revenaient à ce moment-là et qui étaient en train de stopper le génocide, que c'était eux qui avaient déclenché l'attentat. Puisque lui était complètement dans l'autre camp, dans le camp des gens qui préparaient le génocide. Dans tous les cas, lui, il avait passé les 4 ans avant le génocide, donc à fournir du matériel et à entraîner l'armée rwandaise et à donner des conseils pour l'entraînement des milices Interahamwe qui, elles, allaient mettre le génocide en pratique. Donc ce que les trois ONG soulignent, c'est que Baril, en soi, il n'est pas si important que ça. Mais Baril, c'est un peu une clé. C'est-à-dire que Baril, c'est aussi cette politique de mercenaires français qui ont été énormément présents en Afrique, qu'ils sont encore, hein, et qui ont fait tout ce que la France ne pouvait pas se permettre de faire officiellement. Donc des gens, donc il y a eu Baril, hein, il y a eu... comment il s'appelait l'autre là ?
Oui, le super connu, là, le sous-main...
Son nom m'échappe.
L'aventurier machin. Là.
Ouais, c'est
ouais,
ça.
Lui, là.
Bon, bref.
Bob quelque
en tout
chose
cas, ou je sais Bob Donard.
C'est ça.
En tout cas, voilà, on en a eu un certain nombre, des plus ou moins médiatisés, comme Baril ou Donard, mais aussi d'autres, qui sont allés en Afrique faire des trucs que la France pouvait plus se permettre de faire. Et eux, c'était, ils avaient des boîtes de sécurité privées, donc ils étaient privés. En fait, ils n'engageaient pas le gouvernement français. À chaque fois, ça servait quand même bien des intérêts de la France, qu'elle ne pouvait pas se permettre de servir, enfin de servir elle-même de cette manière-là. Et donc là, ce qui se passe, c'est que avec cette plainte contre Baril, les ONG espèrent qu'une fois qu'il sera devant ses juges, et ben peut-être qu'il sera obligé de lâcher des trucs, de lâcher des noms aussi, de gens qui lui auraient demandé de faire des choses, et donc que en fait, juste pour sauver sa tête, il balance des choses qui seraient quand même extrêmement précieuses à savoir, en particulier sur l'organisation de ce génocide. Après, bien sûr, espérer que Baril dise de la vérité devant les juges, c'est comme les gens qui espéraient aujourd'hui que Cahuzac allait se mettre à dire la vérité pendant son interrogatoire. On n'a pas de rubrique Cahuzac ce soir, je le crains. Ah ouais, attendez, c'est que maintenant c'est pas ça qu'il faut passer.
Ils reviennent, ils sont très énervés, ils s'en prennent cette fois à Sony, ce sont les Anonymous.
Leurs armes, les ordinateurs. Leur but, déstabiliser les gouvernements avec le site Wikileaks, vider vos comptes bancaires, paralyser des centrales nucléaires avec des virus. Les pirates.
Facebook, Twitter, LinkedIn, Viadeo, comment s'en servir? Comment maîtriser ces nouveaux outils de communication?
On les dit capables de détruire n'importe quel système informatique. Pourtant, on murmure aussi que ce sont eux qui les ont construits. On les appelle des hackers.
Alors, aujourd'hui, les CNIL européennes, qui sont les commissions de l'informatique et des libertés, ont rendu des recommandations sur la collecte de données en ligne. Donc la collecte de données en ligne, c'est ce qui permet que quand vous vous connectez à un site web, les publicités qui sont sur le côté des informations que vous recherchez réellement permettent de vous présenter une jeune femme qui habite évidemment dans la même ville que vous, parfois dans le même quartier que vous, qui a le même genre d'âge que vous. Et voilà, ça c'est des informations qui sont collectées pendant que vous naviguez en ligne ou que vous remplissez des questionnaires et qui sont utilisées très souvent, la plupart du temps, un peu à l'insu de votre plein gré. Vous avez accepté quelque part mais vous ne savez pas tellement où. Aujourd'hui du coup, les CNIL européennes demandent que les services en ligne s'assurent du consentement explicite de l'internaute avant de collecter des données. En fait, ce qui change, c'est vraiment ce mot explicite, parce que jusqu'à maintenant, c'était un consentement indubitable qui était demandé. Donc indubitable, étant donné que personne ne sait vraiment ce que ça veut dire, ou qu'en tout cas, les sites web ont fait semblant de ne pas le savoir depuis à peu près depuis le milieu des années 90. Et ben tout le monde a fait semblant que indubitable, en fait, bon, c'est pas vraiment dans le dictionnaire, on ne sait pas ce que ça veut dire. Alors on n'aurait qu'à continuer à collecter des données un peu n'importe comment et à les utiliser. Donc, ce que recommande la CNIL, c'est d'expliquer, avant de collecter des données, d'expliquer à l'internaute ce qui va en être fait. Donc, les recherches web, l'historique de navigation, la géolocalisation. Les collecteurs de données devront expliquer ce qui va être fait avec ces données. Est-ce que ça va être utilisé pour de la publicité? Est-ce que c'est réellement nécessaire à l'utilisation du site en question? Toutes ces choses-là. Donc, bien sûr, les géants du web s'insurgent. eBay, par exemple, craint une fatigue du clic. C'est-à-dire que, étant donné qu'en fait, ils collectent, comme beaucoup d'autres sites, des données à longueur de temps, à chaque fois que vous allez sur une page, à chaque fois que vous remplissez un questionnaire, ils ont peur que les internautes en aient marre de cliquer sur OK ou annuler, et que du coup, ils abandonnent leur site. Donc, bon, on a un peu envie de leur dire qu'a priori, ce qui pourrait se passer, sinon ce qui serait pas mal, c'est qu'ils arrêtent de collecter autant de données quand elles sont pas nécessaires, parce que quand vous achetez quelque chose sur eBay, a priori, que eBay connaisse votre date de naissance ou votre profession ou l'âge de votre grand-mère, ça leur sert pas à grand-chose. Donc ils pourraient juste arrêter de collecter ces données et on se fatiguerait pas du clic. Mais en tout cas, la meilleure réaction reste, comme d'habitude, celle de Facebook. Facebook qui estime être dans la meilleure position pour décider du niveau approprié d'une information à fournir. C'est une citation. Donc, bon voilà, ça fait rire tout le monde parce qu'on connaît Facebook, mais surtout, c'est quand même vraiment pas le moment de dire ça parce que c'est quand même cette semaine qu'il y a eu une énorme faille Facebook, une faille qui a concerné quand même 6 millions d'utilisateurs de Facebook, ce qui représente un tout petit peu plus de la moitié des utilisateurs. Et donc Facebook reconnaît avoir exposé par inadvertance les informations de contact de ses utilisateurs, ces 6 millions d'utilisateurs. Donc ils n'ont pas vraiment fait exprès. En fait, tout ça, c'est de la faute de Max Schirms. Max Schirms, c'est un étudiant autrichien dont on avait déjà parlé, qui avait demandé à Facebook, il y a quelques mois ou années, j'ai pas réussi à retrouver la date, qui avait demandé à Facebook de lui fournir toutes ces informations enregistrées par le site. Donc c'était un formulaire en ligne qu'on pouvait remplir pour demander ça. Facebook, il l'avait pas fait par bonté d'âme, hein. C'était quand même obligatoire. Donc cet étudiant autrichien, il avait rempli ce formulaire et il avait demandé ses données. Et il avait reçu un CD-ROM qui contenait un fichier de 1222 pages, qui contenait notamment donc toutes les informations qu'il avait données à Facebook, mais aussi des commentaires ou des photos qu'il avait lui-même supprimées avant de demander ses données. Donc il a énormément médiatisé l'affaire et des milliers d'internautes l'ont imité et ont demandé leurs données à Facebook. Donc Facebook a fermé la demande, le formulaire qui permettait de demander ces données. Ils ont fait le mort pendant quelques semaines. Et ensuite, ils ont quand même dû, bien sûr, se conformer à la loi. Et ils ont lancé un outil de téléchargement qui permettait donc de télécharger un dossier contenant, pas toutes vos données non plus, faut pas exagérer, mais certaines données, certaines informations sur votre compte.
La démocratie directe, quoi.
Oui, voilà. Alors même que toutes les informations de votre compte ne sont pas fournies, donc toujours dans ce dossier, vous tombez quand même sur des adresses et des numéros de téléphone de contact ou de personnes avec qui vous avez une connexion indirecte. Donc c'est ça en fait la faille de Facebook, c'est que les personnes qui voulaient télécharger ce dossier qui était censé les concerner personnellement, eh ben, y avait certaines informations à elle qui n'y étaient pas. Par exemple, tout ce qui concernait ce qu'ils avaient fait sur le Facebook de leur contact, donc un commentaire ou une photo postée sur le mur d'un autre contact. Mais par contre, ils obtenaient des numéros de téléphone, des adresses mail, des personnes qui faisaient partie de leurs amis ou des amis de leurs amis. Et quand on connaît Facebook, ce genre de problème peut aller très vite, parce qu'on peut très vite être ami avec des personnes qui sont uniquement des connaissances ou pour des raisons professionnelles ou autres. Donc voilà, il y a beaucoup d'internautes qui se sont plaints, qui ne s'inquiètent pas, Facebook a réglé le problème, et va envoyer un mail à toutes les personnes concernées. Donc on a quand même un peu envie de leur dire que Facebook, ça concerne plus de 11 milliards d'utilisateurs, qu'ils ont quand même fait un chiffre d'affaires d'1,46 milliard de dollars au premier trimestre 2013, et qu'on sait bien qu'à Palo Alto, là-bas en Californie, il fait beau et qu'ils ont probablement envie de faire du surf, mais s'ils pouvaient se préoccuper de la sécurité de leur site, on leur en serait reconnaissant. Et voilà, pendant que la CNIL, elle, s'insurge des données qui sont conservées, qui sont récoltées sans jamais rien demander à personne, il y a des personnes en Pennsylvanie qui ont monté une entreprise qui permet de garder des données éternellement, mais attention, pas pour n'importe quoi, qui permet d'afficher sur votre tombe un code, un flash code, un code QR. Vous voyez ces codes qui sont un peu partout maintenant, avec des petits carrés et des petites formes noires, que vous flashez avec votre smartphone et qui vous donne accès à des données. Et bien, en l'occurrence, sur la tombe d'une personne que vous connaissez ou non, s'affichera un flash code que vous pourrez flasher avec votre smartphone et vous aurez accès à des photos ou des vidéos du défunt. Vous pourrez écouter ses musiques favorites, lire des textes qui lui sont dédiés, remplir un livre d'or.
Il
n'y
aura
et
pas
bien
une
sûr,
caméra de vidéosurveillance qui filmera sa décomposition en temps réel.
Mais tu peux faire ça en fait, c'est toi qui décides de ce que tu veux mettre dans le flashcode.
Ça a l'air cool.
C'est génial, et vous pouvez voilà, laisser un message, et vous pouvez bien sûr partager tout ça sur Facebook et Twitter, cette expérience fascinante. Il vous en coûtera quand même 99,99$ pour un an et 149,99$ pour l'éternité. C'est un peu drôle.
C'est le mort qui paye
quand même sur Internet. Ben non, ils sont pas bêtes quand même. C'est les proches du mort qui paieront cette somme et qui pourront donc avoir accès. Ils expliquent, c'est pour les enfants par exemple qui ont perdu un parent sans l'avoir connu, qui auront accès à des photos ou autres. Puis bon, au final, c'est pour tout le monde parce que c'est toujours intéressant d'avoir accès à des photos ou vidéos d'une personne décédée. Et quand même, parce que la sécurité, c'est important. Si vous voulez, vous pouvez mettre un mot de passe et ne laisser l'accès qu'à vos proches et aux personnes qui connaissaient réellement le défunt auquel vous aurez diffusé ce mot de passe. Ou non. Voilà, et ben on est bien content, le futur ça fait envie et c'est fini.
Cool.
Il faut que ça se sache.
Et oui, tout à fait, un changement de casque en direct avant une petite brève qui nous amène au centre de rétention administratif de Perpignan. Il y a une personne tunisienne qui était retenue à ce centre, qui a été condamnée à 2 mois de prison ferme, à 1 000 € d'amende et à 900 € de dommages et intérêts pour outrage et menaces à l'encontre de 3 flics du centre qui se sont portés partie civile. Il était en grève de la faim depuis 5 jours avec d'autres retenus pour protester contre les violences subies et les conditions d'enfermement, et les flics l'ont désigné comme responsable d'un départ d'incendie sur le terrain de sport. C'est une histoire dont on avait déjà parlé dans cette rubrique, une personne qui en plus était manifestement innocente et innocentée par les vidéos, et voilà, c'est le verdict qui vient de tomber.
Faut que ça sache !
Il faut que ça se sache !
Alors, mariage pour tous, pas vraiment. Alors là, on va s'attaquer, et il va falloir que vous soyez un peu attentifs et attentives, parce qu'on va parler loi. Alors c'est toujours un peu compliqué quand on parle loi, mais bon bah comme on le sait tous, le mariage de deux personnes de même sexe a été adopté, mais
je suis contre.
Ça, mais Radio Canu, ça exprime toutes les voix possibles et inimaginables. Ce qu'on sait quand même un peu moins, c'est s'il est possible de se marier pour un couple qui est composé d'une personne étrangère. Car dans le cadre d'un mariage où une des deux personnes est d'une autre nationalité que française, il y a tout un tas de protocoles à respecter pour que le mariage puisse être conforme en France et dans l'autre pays concerné. Par exemple, la publication des bans doit se faire dans les deux pays, ou alors un autre exemple, une personne française désirant se marier à l'étranger dans un pays où la polygamie est autorisée ne pourra le faire que si elle signe un contrat de mariage stipulant qu'il s'agit d'un mariage monogame, car la France interdit le mariage polygame. Vous suivez ? Du coup, voilà, là, tout de suite, on voit le problème un peu que ça peut poser avec les mariages homosexuels, car il y a encore tout un tas de pays qui n'autorisent pas le mariage homosexuel. C'est pour ça que dans la loi, une dérogation a été introduite qui dit que alors là, je ouvrais les guillemets, deux personnes de même sexe peuvent contracter un mariage lorsque, pour au moins l'une d'elles, soit sa loi personnelle, soit sa loi de l'État sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet. Bon, là, c'était juste pour citer. Comme d'habitude, on comprend qu'à moitié, mais en gros, ce que ça veut dire, c'est que il faut qu'au moins une des deux personnes ait la nationalité d'un pays qui autorise le mariage homosexuel. C'est clair ?
Au moins une des deux personnes, ouais.
Ouais.
Mais du coup, ça, a priori, ça veut dire qu'une personne française a le droit de se marier avec une personne ressortissante d'un pays étranger.
C'est ça.
N'importe quel pays.
Sauf que, c'est ça, on se dit que là, quand même, notre amie Christine a tout pensé et qu'il n'y aura pas de problème. Bah, sauf que, dans le droit des étrangers et tout ça, eh ben, souvent, il y a des problèmes et ça se complique toujours un peu, voire beaucoup. Car 11 pays.
Énormément.
Ouais, c'est ça. 11 pays ont signé une convention bilatérale avec la France, stipulant que les conditions de mariage doivent se faire conformément aux lois des deux pays. Alors, on va commencer par citer ces 11 pays, comme ça, si vous nous écoutez, vous pouvez savoir si vous êtes concerné ou pas. Ces 11 pays sont donc le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Laos, le Cambodge, la Pologne, la Serbie, le Kosovo, la Bosnie-Herzégovine, la Slovénie et le Monténégro. Alors, comme il s'agit d'une convention internationale, sur le plan de la loi, elle se situe donc au-dessus de la loi française. Ça veut dire que même si une loi française diffère de ce que dit cette convention s'applique quoi qu'il arrive. Et comme aucun de ces 11 pays n'autorise le mariage homo, il est donc impossible pour une personne française, théoriquement, d'épouser une personne d'une de ces nationalités. Alors, moyens...
Quand même, une personne de même sexe d'une...
Oui, c'est ça. Une personne, du coup, ouais, c'est ça. On est dans le cadre du mariage homosexuel. Alors, quand même, on va vous donner une astuce pour y déroger. Mais ça ne concerne pas tous les pays. Si votre pays a, dans la convention qu'il a signée, il a ce qu'on appelle une clause d'ordre public. Alors, voilà, je ne sais pas trop ce que ça veut dire en droit... Mais en tout cas, ça permet à un juge de ne pas faire appliquer la convention grâce à cette clause.
Ça veut dire que ça contredit la convention internationale.
En fait, dans la convention en elle-même, s'il y a cette clause-là, du coup dans la convention que les deux pays ont signée, s'il y a une clause d'ordre public, ça permet à un juge de statuer sur le mariage et de dire « En France, on statue pour le mariage ». Je vais donner un exemple. Dans la liste des 11 pays dans lesquels je sais pas exactement lesquels ont cette clause ou pas, mais par exemple le Maroc là, ça on en est sûr. Les juges français sont déjà servis cette clause, car au Maroc il est interdit de se marier avec une personne d'une confession différente. Donc pour une personne marocaine se mariant en France avec une personne française d'une autre religion, elle pourra se marier car le juge estime qu'il y a une violation du principe de non-discrimination en raison de sa religion.
Mais selon le droit marocain, elle n'aurait pas dû avoir le droit.
C'est ça. Okay. Mais grâce à cette clause, le juge peut statuer sur le fait qu'elle ait le droit.
Okay.
Donc à partir de là, il y a de grandes chances, on peut se dire qu'éventuellement les juges risquent d'appliquer de la même... Parce que du coup là c'est une jurisprudence, enfin je veux dire au niveau où ça a été appliqué, c'est une jurisprudence. Du coup on peut se dire qu'en ce qui concerne les pays qui ont cette clause-là, ça risque, les juges vont se prononcer de la même manière dans le cas d'un mariage homo. Si le pays en question n'a pas signé la convention avec cette clause, comme par exemple la Pologne, alors le mariage est pour le moment impossible. Il faudrait saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Pour cela, il faut avoir épuisé tous les droits de recours en France, c'est-à-dire tribunal ou tribunal d'instance, cour d'appel, cour de cassation, etc. Bref, le parcours du combattant. Ensuite, si la Cour européenne donne raison au plaignant, alors la France serait condamnée et serait obligée de revoir ses conventions et du coup de modifier ces conventions-là et du coup, au bout d'un moment, ça risque d'être accepté. Autant dire que pour ce deuxième cas de figure, ça va être le parcours du combattant. On espère juste que les associations vont filer un coup de main aux premiers dossiers qui se présenteront pour accompagner les gens sur le plan juridique, ce qui permettra de déplier quand même pas mal le chemin pour les suivants. Et ce qui pourra, après une grosse bataille juridique, rendre accessible le mariage pour tous à vraiment tout le monde cette fois-ci.
Faut que ça sache !
Il faut que ça se sache !
Une petite nouvelle un peu habituelle, mais de temps en temps on essaye d'en parler pour que ça reste une réalité à laquelle on pense un petit peu. C'était dimanche 23 juin au matin, et les habitants de Zarzis en Tunisie qui sont réveillés avec un bateau de plus sur leur plage. Celui-ci n'appartient ni à des touristes ni à des pêcheurs, le Zodiac est vide, hormis les effets personnels des passagers qui l'occupaient. Trois corps auraient été retrouvés la semaine précédente sur les plages à proximité de Zarzis et ont été emmenés par la garde nationale, mais le bateau aurait pu transporter jusqu'à 60 personnes. Ce Zodiac n'est malheureusement qu'un des nombreux bateaux fantômes dont on ne retrouvera jamais aucune trace des passagers, et car on continue par mourir par centaines et par milliers en Méditerranée. Malgré cette hécatombe, il y a la Tunisie et la Libye qui n'ont toujours pas délimité leur zone de recherche et de secours en mer, et les pêcheurs qui prêtent assistance aux migrants courent toujours le risque d'être poursuivis pour aide à l'immigration irrégulière, cela alors même que le secours aux naufragés est une obligation inconditionnelle du droit à la mer. Enfin, aucun système commun d'identification des corps et de recensement des disparus n'a été mis en place entre les États de la région, laissant des milliers de familles dans l'attente insupportable de savoir si leurs proches sont morts ou en vie ou... on sait pas où.
Il faut que ça se sache.
Environ 300 immigrants originaires d'Afrique subsaharienne ont lancé cette nuit un assaut massif contre la frontière grillagée qui sépare le Maroc de l'enclave espagnole de Melilla. Donc c'est à la pointe nord de l'Afrique et il y a une centaine d'entre eux qui sont parvenus à entrer en Espagne selon les autorités locales. Donc en gros, voilà, ça s'est passé vers 4h du matin. L'assaut a été violent. Donc ça, c'est la porte-parole de la PREF qui dit ça. Les immigrants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeté des pierres sur les forces de sécurité marocaines. Et finalement, sur 300, une centaine ont réussi à entrer. Alors, les autorités, ils affirment qu'il n'y a eu aucun blessé. Et voilà, il y avait l'alerte qui avait été donnée parce que le groupe, il avait été observé. Et bon, voilà, qu'est-ce qu'ils disent maintenant? C'est qu'ils disent que le groupe a été conduit dans un centre d'accueil provisoire qui habite environ 750 migrants. Et ne vous inquiétez pas pour eux, mais ils bénéficient d'un régime ouvert. Ils peuvent rentrer et sortir librement. Ils ont un toit, trois repas par jour, des vêtements et des soins. Voilà, c'est ce qu'elle dit, hein. Mais donc voilà, en fait, pourquoi on relaye cette info-là? Parce que il y a de plus en plus de groupes de migrants qui viennent d'Afrique qui lancent des assauts contre cette frontière-là en espérant pénétrer ainsi sur l'Europe via cette enclave-là.
Ouais, il me semble que c'est la quatrième attaque cette année sur cette frontière. Ouais.
Et ben, je sais
dans
pas la combien
on en a parlé au moins deux fois ici et c'était déjà la deuxième fois, la première fois qu'on en a parlé, je crois, un truc un peu
voilà.
Comme ça.
Et la dernière fois, en tout cas, c'était le 26 avril, il y avait 70 personnes qui étaient parvenues à passer la frontière après s'être un petit peu embrouillées, enfin bagarrées avec les flics.
Ils en avaient tabassé quelques-uns même.
Et du coup, en fait, là, les assauts de défense des droits de l'homme, ce qu'elles disent, c'est qu'il y a 20 000 à 25 000 clandestins originaires d'Afrique subsaharienne qui se trouvent sur le sol marocain. Donc, en gros, autant de personnes qui, à un moment ou à un autre, vont essayer de passer. Donc, voilà, tant mieux pour les 100 qui sont passés. Et, en tout cas, c'est important, ces assauts-là.
Il faut que ça se sache.
Comme on a deux minutes en rab, on va faire une météo en speed. Alors, on se dépêche.
Je ne dois pas trop de notre gueule ce coup-ci. Hein.
Ça va mal commencer, mais vous allez voir. Jeudi, couvert. Il fera 16 degrés le matin, 19 degrés de l'après-midi. Vendredi, samedi, je vous préviens, vendredi. Pluie éparse à partir de l'après-midi. Ne paniquez pas, le matin, cette météo de merde là. Le matin, 16 degrés, l'après-midi, 18 degrés. Samedi,
en fait, c'est un truc
samedi,
pour annoncer une émission qui s'appelle Idées Noires.
Samedi, matin, pluie, et l'après-midi, la pluie aussi. Le matin, il fera 17 degrés, l'après-midi, 18 degrés. Amélioration à partir de dimanche, qu'est-ce qui se passe? Le ciel sera couvert avec de belles éclaircies, il fera 14 degrés le matin, mais 23 degrés l'après-midi. Lundi, pareil, avec 14 degrés l'après-midi et 14 le matin, 25 degrés l'après-midi. Les jours suivants, vous allez voir, vous allez retrouver le sourire. D'habitude, je vais pas aussi loin, mais là, c'est juste pour donner un peu de soleil dans vos cœurs. Mardi, grand soleil, 27 degrés. Mercredi, grand soleil, 28 degrés. Jeudi, grand soleil, 29 degrés. Vendredi, grand soleil, 30 degrés.
Samedi, pluie, dimanche, pluie. Mais rassurez-vous, on travaille sur l'invention d'un barbecue insubmersible.
Et voilà, c'est fini.
Eh ben, ciao. Et une toute petite seconde de musique avant Idées Noires.
Bonne soirée
à tout le monde.
Ciao.